VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 septembre 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Au sommet du journal, Joe Biden s'est exprimé devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le président américain dénonce la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Pour sa part, Vladimir Poutine sonne la mobilisation de 300 000 réservistes et menace d'utiliser tous les moyens, y compris nucléaires, pour défendre la Russie.
Poutine mène une guerre qui n'est pas juste, une guerre qui n'intéresse absolument personne en Russie.
Sergueï Genov, ancien agent du KGB, nous dira les enjeux de la déclaration du patron du Kremlin. Dans le sud-est du Niger, 11 civils ont été exécutés par des djihadistes présumés. Au Sénégal, le maire de Dakar, Barthélemy Diaz, a été condamné en appel à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme dans l'affaire de la mort de Ndiaga Diouf en 2011. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Deuxième journée de l'Assemblée générale des Nations unies, les débats ont commencé avec le discours du président nigérien Muhammadu Buhari, suivi de l'Iran et du Rwanda. La matinée a été surtout marquée par le discours du président américain Joe Biden. Les détails avec Dilly Diko, notre correspondante à New York.
Le président Joe Biden a parlé du climat et de l'engagement des États-Unis en faveur des énergies propres. Il a abordé la santé et la crise alimentaire dans le monde, insistant sur le fait que les sanctions américaines sur la Russie n'incluent pas les exportations sur les produits alimentaires et les céréales. Sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il a affiché un ton ferme.
Parlons clairement. Un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies a envahi son voisin. Il a tenté de rayer cet État souverain de la carte. La Russie a violé sans vergogne les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies, dont le plus important, à savoir l'interdiction claire faite aux pays de prendre le territoire de leurs voisins par la force.
Joe Biden a également promis que les États-Unis vont soutenir les efforts pour l'élargissement du Conseil de sécurité à des sièges permanents et non permanents pour l'Afrique et l'Amérique latine. Il a également appelé les pays à renforcer les accords de non-prolifération nucléaire et martelé que les États-Unis ne permettront pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Plus tôt, le président iranien Saïd Raisi a réitéré que l'Iran ne cherche pas à obtenir l'arme nucléaire. Il a aussi parlé de ce qu'il appelle les doubles standards de l'Occident dans différents domaines, dont les droits de l'homme. Dans son discours, le président rwandais Paul Kagame a répondu aux propos tenus hier par le président congolais Félix Tshisekedi, qui accusait le Rwanda d'agression et de soutien à des groupes armés terroristes qui ravagent l'est de la RDC.
Il est urgent de mobiliser la volonté de s'attaquer enfin aux causes profondes de l'instabilité dans l'est de la RDC. Le jeu des accusations ne résout pas les problèmes.
Ce soir, plusieurs pays africains sont au programme, dont les discours du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Ali Bongo du Gabon. Dilly Diko, VOA Afrique, New York.
Cela dit, le président russe Vladimir Poutine a sonné aujourd'hui la mobilisation de 300 000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine. Il se dit prêt à utiliser tous les moyens de son vaste arsenal contre l'Occident, une initiative condamnée par les Américains et les Européens. Nani Talani.
Ce n'est pas du bluff, a répété Vladimir Poutine, accusant les pays occidentaux de vouloir détruire la Russie, d'avoir recours au chantage nucléaire contre elle, et signifiant aussi qu'il est prêt à utiliser l'arme atomique. Cette mobilisation effective dès ce mercredi est nécessaire, a déclaré M. Poutine. Sergueï Shoigu, ministre russe de la Défense, précise que 300 000 réservistes sont concernés sur 25 millions mobilisables. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou dans une interview à une chaîne allemande. Suite à cette mobilisation annoncée, les billets pour quitter la Russie se sont vite épuisés. Les vols intérieurs vers des villes proches des frontières sont passés de 70 dollars en période normale à plus de 750 dollars. Londres, Berlin, Washington estiment que c'est un aveu d'échec et un signe de faiblesse de Poutine. La Chine, quant à elle, appelle à un cessez-le-feu. Cette mobilisation arrive au lendemain de l'annonce du référendum d'annexion par la Russie dans 4 régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine.
Les États-Unis prennent au sérieux la menace de Vladimir Poutine de recourir à l'arme nucléaire dans la guerre en Ukraine, a dit John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, annonçant de sévères conséquences si le président russe passait à l'acte.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la junte guinéenne est arrivé aujourd'hui au Mali. Ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya, le premier hors des frontières depuis que lui et ses hommes ont pris le pouvoir par la force en septembre 2021, n'a donné lieu à quasiment aucune communication officielle des deux côtés. Un document envoyé par les affaires étrangères maliennes aux missions diplomatiques parle de visites d'amitié et de travail. Ce mercredi et demain jeudi, elle a lieu alors que le Mali célèbre ce jeudi le 62e anniversaire de son indépendance. Le même jour doit se tenir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York un sommet extraordinaire de l'organisation de la CEDEAO qui devrait être principalement consacré à la Guinée et au Mali. Au Niger, 11 agriculteurs, 9 Nigériens et 2 Nigérians ont été exécutés par balle hier par des djihadistes présumés de Boko Haram dans le sud-est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Issa Bonga, maire de Toumour, à 7 km où l'attaque a eu lieu, des bûcherons partis couper du bois dans la brousse ont été interceptés par des éléments de Boko Haram. Le groupe Jeunesse Difa affirme que 11 ont été exécutés. Selon cette association, les terroristes ont lancé un message par le canal d'un des bûcherons relâchés pour avertir les riverains de ne plus fréquenter la zone où ils opèrent. La région du lac Tchad est truffée d'îlots servant de refuge aux militants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Début septembre, plusieurs pêcheurs ont été tués par des djihadistes pour avoir désobéi à un ordre de quitter la zone. Selon un responsable local, les terroristes ont ordonné fin août à la population de quitter les îles. Il ajoute que ces tueries sont comme des représailles commises par des éléments de Boko Haram qui reprochent aux pêcheurs de ne plus vouloir les ravitailler.
Au Sénégal, le député maire de Dakar a été condamné en appel à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme dans l'affaire de la mort du Nervi Ndiaga Diouf. Si cette peine ne menace pas directement son poste de maire de Dakar, elle pourrait mettre en péril son mandat de député. La correspondance à Dakar de Céline Abagay.
La cour d'appel du tribunal de Dakar a confirmé le verdict de la cour correctionnelle qui avait condamné Barthélémy Diaz à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme qu'il a déjà purgé. La demande de 150 millions de francs CFA de dommages et intérêts de la partie civile a été déboutée par la même cour d'appel. Le député maire de Dakar n'ira donc pas en prison, mais cette affaire demeure une tâche dans sa carrière politique. D'ailleurs, ses avocats sont vite montés au créneau pour annoncer la poursuite de la lutte. Maître Khoury Siba affirme qu'il y aura un pourvoi en cassation. Selon l'avocat, même si Barthélémy Diaz ne peut plus être révoqué de son poste de maire de Dakar, son mandat de député est en péril. D'après Maître Khoury Siba, le pourvoi en cassation peut toutefois permettre de suspendre le verdict, tout comme le bureau de l'Assemblée nationale peut demander la suspension des poursuites jusqu'à la fin de son mandat. En attendant de savoir quelles suites politiques et juridiques seront données à ce verdict, la mort du supposé Nervi Ndiaga Diouf suit la vie et la carrière politique du député maire de Dakar, Barthélémy Diaz, comme une tâche. Céline Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
L'armée américaine a annoncé aujourd'hui avoir tué 27 miliciens du groupe islamiste Shebab dans une frappe aérienne menée en soutien à une importante opération des soldats somaliens dans le centre du pays. La frappe a été menée dimanche près de Bouloubourdé, à environ 200 km au nord de la capitale Mogadiscio, alors que des Shebab étaient en train d'attaquer des soldats somaliens, a indiqué le commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM, dans un communiqué. En Tunisie, Rached Ghannouchi a été remis en liberté aujourd'hui par un magistrat qui a ordonné le report du procès du chef de Ennahda. Il a été interrogé par la police toute la nuit dans le cadre d'une enquête portant sur le soutien apporté à des Tunisiens souhaitant partir combattre en Syrie. Également interpellé, l'ancien premier ministre Ali Larayed, issu de la même mouvance, a quant à lui été placé en détention. Les deux hommes nient les accusations. Et puis les autorités iraniennes ont annoncé aujourd'hui la mort de 3 personnes, dont un membre des forces de sécurité, lors de manifestations contre le décès la semaine dernière en détention de Mahsa Amini, une jeune kurde arrêtée par la police, des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouhamadou Mfa.
Plus de 600 migrants originaires d'une dizaine de pays africains sont arrivés dans le nord du Niger le 17 septembre après avoir été refoulés d'Algérie. Considéré comme un Eldorado et un point de transit vers l'Europe, l'Algérie a expulsé depuis 2014 des dizaines de milliers de migrants irréguliers originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale, selon les Nations Unies. Certains de ces migrants tentent de survivre en Algérie, mais un grand nombre cherche à gagner l'Europe. Les péages pour le transit sur le canal de Suez en Égypte augmenteront de 15% pour tous les types de navires et de 10% pour les cargaisons de vrac sec et les navires de croisière à partir de l'année prochaine. Selon l'autorité du canal, la hausse des prix de l'énergie, des tarifs de fret et des tarifs d'affrètement quotidien des navires est la principale raison de l'augmentation des péages du canal. Environ 15% de la capacité de stockage de céréales de l'Ukraine a été perdue depuis le début de la guerre, avec des effets néfastes pour la sécurité alimentaire mondiale. Les dirigeants du monde entier ont appelé mardi à redoubler d'efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire croissante dans le monde, exacerbée par l'invasion russe de l'Ukraine et le manque d'engrais. Selon un rapport américain du Conflict Observatory, environ 15% de la capacité de stockage de céréales de l'Ukraine a été perdue depuis le début de la guerre, avec des effets néfastes pour la sécurité alimentaire mondiale.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le sport africain s'invite à l'Assemblée générale de l'ONU.
L'Afrique est encore un marché sous-développé pour les grandes disciplines sportives mondiales, alors que le continent est un réservoir de milliers d'athlètes prêts à grossir les rangs du football, du basketball ou du football américain. C'est l'appel lancé par des représentants et sportifs américains, africains et d'origine africaine lors d'un forum à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Parmi eux, Adam Silver, le patron de la NBA, qui a salué le potentiel des joueurs africains ou d'origine africaine, relevant que plus de 10% des basketteurs de la NBA sont nés en Afrique ou ont des parents africains. Il s'exprimait aux côtés d'anciennes étoiles de la NBA comme Dikembe Mutombo, originaire de la RDC, la sensation de la WNBA, Chinwe Ogwuamuke, d'origine nigériane, et l'actuel ailier des Toronto Raptors, le Camerounais Pascal Siakam. Du côté du foot, le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est revenu sur le lancement l'an prochain de la Super League pour 24 clubs africains.
L'Afrique du Sud candidate pour accueillir la Coupe du monde féminine de 2027.
Nous aimerions avoir l'occasion de dérouler à nouveau le tapis rouge en 2027 pour le tournoi féminin, a déclaré Tebogo Motlanthe, directeur général de la Fédération sud-africaine de football. Le pays avait déjà organisé la Coupe du monde de football masculine en 2010. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne ont déjà formulé une candidature commune. L'Afrique du Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria sont les pays africains qualifiés pour la Coupe du monde féminine en 2023, qui sera organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Cristiano Ronaldo veut aller au moins jusqu'à l'Euro 2024.
Mon parcours n'est pas encore terminé. Je veux être présent au Mondial 2022 et à l'Euro 2024. Ce sont les mots de l'attaquant portugais de 37 ans, quintuple ballon d'or, considéré comme le pilier de la Seleção en vue du Mondial au Qatar. La superstar a reçu hier mardi le prix Kindas de Ouro du meilleur buteur des sélections décerné par la Fédération nationale. Le capitaine du Portugal compte 189 sélections et le record mondial de buts en équipe nationale avec 17 réalisations.
Ici à NBA, Anthony Edwards a mandé pour propos jugés homophobes.
La jeune star de Minnesota devra s'acquitter d'une amende de 40 000 $ pour ses propos homophobes tenus dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux la semaine passée. L'annonce a été faite par la NBA. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo, l'arrière de 21 ans avait présenté ses excuses. À un mois du début de la prochaine saison, la NBA est en effet secouée par l'affaire Robert Sarver, du nom du propriétaire de Phoenix Suns, suspendu 1 an de toute activité officielle par l'instance pour comportement raciste et misogyne.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Bion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a mobilisé mercredi quelques 300 000 réservistes pour relancer son offensive en Ukraine. Il a brandi aussi la menace d'un recours à l'arme nucléaire que les États-Unis disent prendre au sérieux. M. Poutine s'est dit prêt à utiliser tous les moyens pour faire face à l'Occident qu'il a accusé de vouloir détruire la Russie. Eric Manirakiza a joint à Paris Sergei Genov, ancien agent du KGB, le service de renseignement russe de l'époque soviétique.
Il faut s'inquiéter de cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine, de l'escalade du conflit. Poutine, si vous voulez, il n'a pas compris la chose principale à mon goût et à mon avis, c'est qu'il ne pourra jamais gagner cette guerre. Il croit encore qu'il est en train de la perdre, tout simplement parce qu'il lui manque des hommes. Et en réalité, c'est pas ça. C'est que Poutine mène une guerre qui n'est pas juste, une guerre qui n'intéresse absolument personne en Russie, à part lui et quelques militaires peut-être ou quelques nationalistes. Et donc cette guerre, il ne pourra jamais la gagner parce que l'Ukraine est en train de défendre son peuple, son territoire. Et les gens qui défendent leur territoire et leur peuple, ils sont beaucoup plus motivés et ils sont invincibles. Et Poutine ne l'a pas compris. Donc, si vous voulez, il est sur la mauvaise voie. Il a pris une mauvaise décision de commencer cette guerre et il s'enlise dans cette guerre et il s'enlise dans les mauvaises décisions. Et chaque décision depuis 7 mois qu'il prend est pire que la précédente. Et donc là, il estime qu'avec la mobilisation de 300 000 personnes dans l'armée, il pourra imposer quelque chose sur le front, mais il ne faut pas oublier non plus que ces 300 000 personnes, ce sont des personnes souvent qui manquent d'entraînement, qui ne sont pas sur le terrain, et ce n'est pas parce que vous rajoutez 300 000 personnes sur le front que ça vous donne forcément un avantage. Surtout que les Ukrainiens sont armés par des armes occidentales qui sont plus efficaces, plus sûres, plus ponctuelles, plus pointues. Et donc, avec les armes conventionnelles et avec ces armes, Poutine ne peut pas, à mon avis, vaincre cette guerre. Et il lui restera, malheureusement, une autre issue qui est issue nucléaire. Et il a parlé, d'ailleurs, de cette issue.
Comment vous avez interprété la réaction de l'Occident ?
L'Occident s'attendait un peu à ça et en même temps, on est quand même surpris parce que il présente la Russie comme une victime qui serait attaquée par le monde entier ou notamment par l'Occident. C'est faux. Aucun pays occidental n'attaquait la Russie. L'Ukraine n'a pas attaqué la Russie. Donc Poutine raconte que des mensonges. Mais en même temps, l'Occident est prêt. Parce que de toute façon, la Russie, c'est un pays qui est économiquement très faible, qui ne pourra pas mener cette guerre indéfiniment. Et de toute façon, Poutine est en train de perdre cette guerre depuis 7 mois.
Vous connaissez Poutine depuis très longtemps. Vous étiez ensemble au sein du KGB. Quand vous le regardez aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez la même personnalité ?
C'est la même personnalité et une personne différente. La même personne dans le sens que quand il était à l'école du KGB, au bout d'une année de formation, les formateurs du KGB lui ont dit « cette personne ne nous convient pas ». On ne veut pas cette personne dans le service d'espionnage parce qu'il est dangereux, parce qu'il peut prendre des décisions dont il ne mesure pas les conséquences. Et ces conséquences peuvent être dangereuses pour lui et pour le service. Et c'est pour ça d'ailleurs, Poutine n'a jamais fait la carrière d'espion, contrairement à tout ce qu'on raconte. Et donc ce Poutine-là, il est le même. Ça veut dire que c'est le même personnage, sauf qu'il est devenu plus dangereux parce qu'avant, il n'était qu'un petit fonctionnaire au KGB. Maintenant, c'est un chef d'État qui possède le plus grand arsenal nucléaire. Donc par rapport à ça, c'est le même Poutine. Et en même temps, ce n'est pas le même Poutine parce que c'est quelqu'un qui est perverti par 22 ans de pouvoir absolu, de pouvoir dictatorial. Et donc, en fait, il s'est coupé complètement de la réalité. Et je crois qu'il ne sait plus ce qui se passe en dehors de sa tête.
C'était Sergei Girnov, ancien agent du KGB, service de renseignement russe à l'époque soviétique. Au Tchad, le ministère public a empêché une manifestation annoncée ce mercredi par Wakid Tama, un mouvement hostile au régime de transition de N'Djamena. Les participants au dialogue national, quant à eux, quittent au fur et à mesure, après avoir reçu une partie de leur per diem, un droit pour la participation à cette rencontre. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Dans un arrêté publié à la veille, le ministre de la Sécurité publique dit avoir interdit cette marche pacifique parce que son service n'a reçu aucune demande de manifestation. Les organisateurs affirment le contraire et disent qu'une demande a été bien déposée, mais le service concerné a refusé de la réceptionner. Les initiateurs voulaient se rassembler sur la place de la Nation en face de la présidence pour faire passer leur message. Mais là encore, les forces de défense et de sécurité ont investi le lieu très tôt, selon le porte-parole de Wakitama, Maître Max Loalgar.
Malgré l'arrêté d'interdiction du ministère de la Sécurité publique, nous avons tenu à arriver, mais le lieu était complètement pris d'assaut par les forces de l'ordre. Ce n'est pas simplement à la place indiquée, mais ils se sont déployés sur toute la ville avec des armatas comme si on était en guerre, ce qui était une démonstration de force inutile. Nous nous sommes retrouvés, je dirais, à l'embouchure de cet endroit pour faire une brève déclaration et puis nous nous sommes séparés. En dépit de tout, 4 personnes ont été arrêtées alors même qu'ils n'ont posé aucun acte. Une personne aurait été libérée et les 3 sont encore détenus. Mais je puis aussi vous dire que cette interdiction a un peu irrité nos camarades qui se sont déchaînés dans les quartiers en brûlant les pneus par-ci, par-là, par des manifestations de colère sporadiques.
La police dément l'arrestation des 4 manifestants évoqués par le porte-parole de Wakitama. Les travaux du dialogue national voulu par la junte se poursuivent même si plusieurs groupes constitués, dont l'Église catholique, ont quitté définitivement la rencontre. Brahim Gartoïdi, président du parti Action fédérale pour le développement.
Lorsque nous sommes en plénière, nous débattons des sujets, des points maîtresses ont été relevés des uns et des autres, mais finalement, non seulement on ne se retrouve pas dans la synthèse, mais aussitôt après la lecture, il y a une bande qui commence maintenant à clamer, à clamer, à clamer. On dit que c'est le consensus. Nous trouvons qu'il ne fallait pas faire de la politique de la chaise vide. Nous avons accepté d'aller. Nous nous rendons compte que nous partons pour légitimer le pouvoir des jeunes en place. Nous n'allons pas continuer à vouloir à ce que ce régime qui nous a tenus en tenaille depuis plus de 30 ans continue vraiment à s'installer.
Réaction de quelques citoyens dans la rue de N'Djamena.
Avec le départ des participants tous les jours, ce dialogue n'a plus de sens. Les quelques participants qui s'accrochent à cette rencontre, nous citoyens, nous ne comprenons pas ce qu'ils font. Ils ne disent même pas la vérité. Ils ne font que défiler seulement au palais du 15 janvier.
Il est dit que le dialogue doit être inclusif et souverain. Maintenant, il y a des sociétés civiles, certains partis politiques, les politico-militaires qui ne sont pas là. Et récemment, on vient d'apprendre encore la démission du ministre des Affaires étrangères. Donc, ça prend déjà une autre allure.
Bon, à mon avis, je peux dire que rien n'est plus abouti concernant le dialogue.
Les chefs traditionnels ont failli claquer définitivement la porte pour protester contre la non-prise en compte de leurs revendications dans la thématique sur les questions sociales. Ce qui a été évité de justesse après la négociation en coulisses avec une équipe du Présidium. André Kodoma Djingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Nigeria, l'année scolaire a commencé, mais plus de 600 écoles sont toujours fermées à cause de l'insécurité. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a déjà l'un des taux d'enfants non scolarisés les plus élevés au monde et l'ONU affirme que le problème s'est aggravé. Reportage de Timothy Obiezu depuis l'état de Kaduna au Nigeria. Le récit est de Nani Talani.
La petite ville de Sabo, au sud de l'état de Kaduna, est animée. À quelques kilomètres du centre-ville, un groupe d'anciens élèves sont dans un abri provisoire avec leurs parents depuis novembre 2021. Leur village a été envahi par des gangs armés. Abayo Ilia affirme que c'était la dernière fois que son fils de 6 ans a été à l'école.
Nous étions des agriculteurs avant que ces gens ne viennent nous attaquer. Ils ont brûlé toutes nos maisons, nos fermes, nos moyens de subsistance et l'école que fréquentaient nos enfants. Ils ont tout rasé.
Depuis, l'école abandonnée est envahie par les herbes et les salles de classe par la poussière. Plus de 600 écoles du nord du Nigeria, y compris l'état de Kaduna, sont dans cette situation. Aléré Ilia, l'épouse d'Abayo Ilia, aimerait bien inscrire son fils dans une école plus sûre, mais les moyens ne suivent pas. Mais les moyens font défaut.
Le problème maintenant, c'est que nous n'avons même pas l'argent pour les faire sortir d'ici et aller dans une autre école. Nous avons tout perdu.
L'UNESCO signale que plus de 20 millions d'enfants nigérians ne sont pas scolarisés, soit une hausse de près de 2 millions d'enfants par rapport au mois de mai. Les autorités nigérianes contestent ces chiffres, avançant que la situation s'est améliorée et que le gouvernement a dépensé beaucoup pour l'éducation. Mais Abdul Salami Ladigbolu, le chef du programme Lire et Apprendre de l'UNESCO au Nigeria, donne les raisons de ces chiffres élevés.
C'est une situation complexe. L'insurrection peut en faire partie. Deuxièmement, le décès de leurs parents ou tuteurs responsables des frais de scolarité. Un autre facteur que nous pouvons considérer est le mariage précoce. Celui-là est particulier aux filles.
La semaine dernière, des dizaines de fidèles ont été enlevés à Kadjourou. Leurs ravisseurs réclament plus de 450 000 dollars de rançon pour leur libération. Les autorités nigérianes ont intensifié la répression contre les gangs armés. Elles affirment que lors d'une récente frappe aérienne, environ 200 bandits présumés ont été tués. Mais la menace est toujours là et va probablement maintenir beaucoup d'écoles fermées.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Au Togo, les effets du changement climatique affectent particulièrement les populations paysannes des zones côtières. Les différentes enquêtes le prouvent et les autorités tentent d'y remédier. De Lomé, la correspondance de Kossi Wusu.
Dans la ville côtière d'Anero, située à 50 km au sud-est de Lomé, Anani Wilson, président de l'Association des volontaires togolais pour le développement, s'évertue à reboiser sa localité depuis plus de deux décennies pour atténuer les effets du changement climatique. Malgré ses efforts, son constat est sans appel.
Disons que la situation est alarmante parce que le changement climatique crée des impacts très négatifs. Il est bien vrai que l'État togolais s'y bat, mais reconnaissons que les fléaux sont tellement énormes que les solutions ne viennent pas rapidement.
Foli Bazi Katari, le ministre togolais de l'Environnement, approuve.
D'après les résultats des enquêtes d'auto-évaluation et évaluation holistique et de la résilience des agriculteurs et des éleveurs, toute la diversité des systèmes de production du paysage côtier pourrait être affectée par le changement climatique d'ici 2050. Il faut donc agir.
Un projet de renforcement de la résilience au changement climatique de 9 millions de dollars est créé. Pia Balo Alaba de l'Office de développement et d'exploitation des forêts assure la mise en œuvre.
Ce projet vise à renforcer la résilience au changement climatique des communautés du Togo grâce à une approche intégrée axé sur l'adaptation basée sur les écosystèmes et les moyens de subsistance des populations de la zone littorale du Togo.
Baka Bima Ditorga, coordinateur du projet, donne plus de détails.
Spécifiquement dans les activités sur le plan agricole, transformer, accompagner les paysans à voir les marchés. Sur le plan forestier également, renforcer la protection des écosystèmes qui sont déjà fragilisés. Il faut qu'on puisse le valoriser à travers même l'artisanat. Et comme on l'a vu, la pêche, ça ne marche pas. Donc il faut amener des techniques innovantes pour élever carrément les petits poissons et permettre aux femmes d'avoir les petits poissons à perpétuité.
Zewa Chiavi Akpene, responsable d'une ONG de femmes, n'en demande pas plus, d'autant que 50% du projet est destiné aux organisations féminines.
Le changement climatique a vraiment des effets sur la vie de la femme. Ça a fait de l'agriculture, ça a fait de la production, ça a fait tout. Donc ça a un effet direct sur la femme. Il est dit qu'on va appuyer 75 coopératives féminines, on va appuyer les jeunes entrepreneurs, dont 50% des femmes. Donc ça nous réjouit vraiment.
Jusqu'en 2027, ce projet devrait contribuer à améliorer les moyens de subsistance d'environ 100 000 personnes. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.